Le journal avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est l'attentat le plus meurtrier à Bogota depuis 15 ans. Plus de 21 personnes ont été tuées hier et 68 autres blessées dans une attaque à la voiture piégée qui a explosé contre la principale école de police de Bogota située au sud de Bogota, donc située en Colombie.
À 8h de la mañana, la policía reportó una fuerte explosión en el interior de la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander ubicada en el barrio Villamayor, en el sur de Bogotá.
Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Que sait-on précisément de cette attaque?
Alors vers 9h30 hier matin, un 4x4 blanc s'est donc présenté à l'entrée de l'académie de police de Bogota Sud. Des chiens policiers ont détecté la présence d'explosifs dans le véhicule, mais le conducteur a accéléré, forcé la barrière et il a fait exploser 200 mètres plus loin sa cargaison de 80 kilos d'explosifs. L'explosion a été extrêmement forte, elle est intervenue surtout alors que les élèves, les cadets sortaient de l'amphithéâtre de leur école où venait de se terminer une cérémonie de remise de médailles. C'est cela en grande partie qui explique un nombre de morts et de blessés aussi important, dont la plupart seraient des enfants. Le président colombien Iván Duque s'est rendu sur place, il a décrété 3 jours de deuil national et il a dit que son pays serait uni et serait plus fort face à l'adversité terroriste. Car cette attaque, elle remet la Colombie face à ses vieux démons terroristes. Alors bien sûr, les rebelles des FARC ont très vite condamné l'attentat d'hier. Eux ont déposé les armes en 2016 quand ils ont signé un accord de paix historique avec Bogota. Mais dans le nord du pays, la région d'où venait l'auteur de l'attaque suicide d'hier, la guérilla de l'ENL, l'armée de libération nationale, reste, elle, active. Le terroriste de l'école de police, âgé de 56 ans, semble bien avoir combattu dans ses rangs d'après les premiers éléments de l'enquête. Selon les services de renseignement colombiens, l'homme répondait au nom de guerre de Mocho Kiko. Les rapports de police de médecine légale confirme qu'il était amputé de la main droite et ça semble prouver pour les enquêteurs qu'il était l'un des artificiers de l'armée de libération nationale de Colombie.
Camille Magnard. L'Union africaine met la pression sur la République démocratique du Congo et demande la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs attendus aujourd'hui. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a été saisie par l'opposant Martin Fayulu, donné battu lors de la présidentielle du 30 décembre dernier. De son côté, l'ONU affirme qu'au moins 890 personnes ont été tuées dans des affrontements interethniques dans le centre du pays et de s'interroger sur une instrumentalisation de ces tensions par des proches du président sortant Joseph Kabila juste avant la présidentielle. Il sera confronté pour la première fois aujourd'hui aux proches des victimes et à la cruauté des images de son attentat. Le djihadiste français Mehdi Nemmouche est jugé aux assises de Bruxelles pour 4 assassinats en mai 2014 au musée juif de la capitale belge. Parmi les témoins qui vont prendre la parole aujourd'hui, Philippe Blondin, le président du musée juif de Bruxelles. Il explique au micro d'Antoine Marette ce qu'il attend de ce moment.
C'est un procès d'assises, il y a des morts, et il faut en parler. Il faut quand même que le jury se rende compte qu'il y a de l'émotion qui doit passer.
À quoi vous attribuez cette absence d'émotion jusqu'à présent ?
Mais je pense que le tribunal et sa présidente ont fait face à des problèmes techniques qu'il a fallu résoudre et qu'on n'a pas encore évoqué le nom des 4 victimes de ce musée. Et je n'ai pas encore jusqu'à ce jour ressenti cette émotion et également cet esprit d'empathie avec des victimes.
In memoriam, Myriam et Emmanuel Riva, Dominique Sabrier, Alexandre Strens, lâchement assassinés en ces lieux par un terroriste le 24 mai 2014 à 15h39. C'est ce que l'on peut lire désormais sur la plaque en cuivre située à l'entrée du musée juif de Bruxelles. Le grand débat national, deuxième séquence présidentielle. Emmanuel Macron se rend cet après-midi à Souillac dans le Lot pour faire face à 600 maires d'Occitanie et se prêter à un nouveau jeu de questions-réponses face aux élus, 3 jours après un premier oral marathon en Normandie. Les constructeurs ferroviaires Alstom et Siemens commencent à douter publiquement du succès de leur projet de créer un Airbus du rail, refroidi hier par les concessions exigées par la Commission européenne pour autoriser une telle fusion. Bruxelles s'inquiète de la position dominante que pourrait avoir le nouvel ensemble ferroviaire. De son côté, le gouvernement français prévient refuser une telle opération serait une erreur économique et une faute politique, alors que l'Europe peine à faire émerger ses champions industriels face à la Chine. Un avis que ne partagent pas du tout les syndicats qui sont contre cette fusion, comme Olivier Collère, délégué CFDT Alstom sur le site de Belfort.
Les Chinois ne sont pas en train d'envahir l'ensemble des opérateurs ferroviaires en France avec leurs produits. On fait un peu des plans sur la comète sur cet aspect-là. Et même la Commission européenne a relevé ce point-là, que nous sommes loin d'une invasion chinoise dans le cadre de la construction ferroviaire. Donc, ne crions pas au loup. Alstom et Siemens, chacun de leur côté, ont les capacités déjà de faire face aux Chinois. Des Chinois, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils construisent des locomotives ou des trains à grande vitesse ou des métros. Donc, on fait déjà face aux Chinois. Continuons à le faire de cette façon.
Olivier Collère, délégué CFDT chez Alstom, joint par Hakim Kasmi. Le temps de ce vendredi 18 janvier marqué par des gelées ce matin dans la moitié nord de l'Hexagone, par des pluies ensuite. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 10 degrés en général d'est en ouest. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.